La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Je n'ai aucune idée de ce que je fous là. Non, enfin, si, je c'est ce que je fais là au sens, je dirais, géographique du terme. Je suis ici, par ailleurs. Que si je sais ce que je suis censé faire concrètement, à savoir présenter une émission de radio avec des invités sérieux, des invités moins sérieux, des sujets pas toujours consensuels. Ça, tout ça, je sais. Je parle dans un micro présentement. Voilà, 7 ans de métier pour en arriver à cette conclusion. Non, en revanche, ce qui m'échappe, c'est pourquoi je suis en train de présenter la dite émission maintenant. Au départ, je suis venu à Paris pour aller au cinéma, pour plus précisément pour une séance à 11h. Bon, j'accumule un léger retard personnel, mais surtout, il y a un camion poubelle devant le bus qui m'amène au RER et le RER est fortement ralenti après un accident grave sur ma branche. Un mardi, pour beaucoup de gens, comme j'en fais le constat amer, un mardi de plus. Un mardi où je ne serai donc, vous l'aurez peut-être deviné, pas allé au cinéma. Ça m'amène à la radio un peu prématurément, je m'en plains pas, ça m'a permis de prendre de l'avance sur l'émission de demain, à savoir le monde zygomatique dont le non-invité sera par ailleurs François Ruffin à chaque autopromo. Je profite aussi de cette avance pour aller déjeuner place des Vosges avec les permanents hantes de l'association. S'ensuit une réunion sur une future émission en public avec le best des salariés. Est-ce que je dis ça parce que je le pense ou parce que le salarié a le droit de vie sur, ou de mort sur des émissions comme par exemple le monde zygomatique dont le non-invité sera par ailleurs François Ruffin? Je garde la réponse pour moi. Et après cette réunion, il y a Mayouen qui vient me dire « Eh Simon, il n'y a personne pour animer l'émission, ok, merci de te dévouer sans dire un mot. » Et c'est là que je me demande ce que je fais là, hein, déjà d'un point de vue d'inspiration, puisque j'ai déjà foutu toutes mes vannes dans ce que j'écris, dans ce que j'ai écrit par avance pour le monde zygomatique, dont le non-invité sera d'ailleurs François Ruffin, je sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et puis surtout parce que j'ai des trucs à faire, moi. Je dois rusher des lettres de motivation pour trouver un stage qui conditionne l'obtention de mon M2, monter une version de mon film d'études accompagnée d'un texte pour justifier mon travail à mon directeur, postuler à 3 M2 supplémentaires pour compléter la formation de mon M2 actuel qui me satisfait finalement pas autant que... Ah oui, en fait, je vois ma to-do list et je sais ce que je fais là, parce que j'ai pas envie d'être ailleurs. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h. Ce soir, on passe aux choses sérieuses dès maintenant avec un témoignage de la situation, à propos de la situation, excusez-moi, à Mayotte. C'est un témoignage réalisé fin mars chez nos amis de Radio Campus Angers et qu'on va pouvoir réécouter dans un instant, surtout au regard de l'actualité parlementaire. Ce sera avant de retrouver non pas un, mais bien deux Zooms. Le premier aux alentours de 19h28 avec Garance qui recevra Jean-Pierre Levaret, auteur du livre Putain d'usine, qui est à reparaître bientôt chez Agone. Le deuxième Zoom sera à retrouver à 19h38 et on sera aussi avec Garance qui parlera avec Julien Lévy et Emmanuel du festival Palmipède, un rendez-vous musical qui se tient ce week-end, c'est-à-dire les vendredis et samedis 11 et 12 avril à Paul B à Massy. Et que serait cette matinale sans les ponctuations que sont le flash d'Eléonore à 19h26 et la chronique de Fabien à 19h53, je vous le demande. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et ce mardi 8 avril 2025 aura été marqué par l'adoption définitive d'une loi limitant le droit du sol à Mayotte. Un texte qui a été porté par les Républicains, mais qui a aussi connu un large soutien du bloc macroniste et évidemment, vous le devinerez, de l'extrême droite. Avant la réforme, les enfants nés dans l'archipel de Mayotte devaient avoir un parent résidant régulièrement sur le sol français depuis au moins 3 mois au moment de leur naissance pour obtenir plus tard la nationalité française. Avec cette réforme et ce durcissement de la loi, les deux parents devront résider régulièrement en France depuis au moins 1 an et une exception existera pour les familles monoparentales, mais en tout cas voilà, c'est le durcissement est celui-ci. C'est l'occasion pour la rédaction de Radio Campus Paris de relayer un témoignage sur la situation à Mayotte, celui d'Adjija, membre d'Angers Solidarité Mayotte, et Jamel, militant antiraciste et décolonial, qui témoignent tous les deux de la situation catastrophique sur place. L'occasion d'interroger la situation migratoire particulière sur une île présentée parfois comme une colonie laboratoire de l'extrême droite.
Alors nous recevons Adjija d'Angers Solidarité Mayotte et elle revient tout juste de Lille. Alors il y a aussi Jamel. Bonjour à vous.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Adija, vous êtes mahoraise et vous avez passé à peu près un mois et demi à Mayotte. Vous êtes rentrée il y a un tout petit peu plus d'une semaine. Le cyclone Chido a frappé l'île le 16 décembre dernier, a fait des dégâts énormes sur l'île. Et c'est de ça qu'on va parler parce que c'est vrai que, bon, évidemment, on en a beaucoup parlé hein, dans les médias de l'état de l'île après le passage du cyclone. Mais depuis quelques semaines, on en entend moins parler alors que la situation humanitaire sur place ne s'améliore pas ou trop peu rapidement, bien trop peu rapidement. Adija, pour commencer, j'aimerais, comment va votre famille?
Moi, ma famille, je dirais qu'elle a été moins touchée. Donc, du coup, je dirais qu'ils vont bien. Ils vont bien physiquement, mais psychologiquement, en fait, ça, on voit vraiment qu'ils sont touchés.
Parce que c'est vraiment difficile pour eux, la vie sur place maintenant?
C'est très, très difficile parce que non seulement... Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas été touchés? Parce qu'en fait, il y a eu un petit peu de destruction par rapport à d'autres où ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de... Où leur maison, il y est là, mais il n'a pas de toit. Excusez-moi, c'est un peu...
Ça va, mais il y a quand même eu des pertes matérielles assez importantes. Comment est-ce que vous vous êtes sentie, vous, en arrivant là-bas?
Je me suis... déjà, je n'arrivais pas à me retrouver. Donc, du coup, j'arrive à l'aéroport. Déjà, l'aéroport était tout petit. Donc, du coup, dès l'arrivée, en fait, déjà, nous, du ciel, on voit déjà l'île, en fait, les dégâts. Donc, j'étais allée avec mon grand-fils. Donc, du coup, moi, en tout cas, j'étais très touchée. Ben, j'étais déjà en pleurs, pour bien vous le dire. Je savais pas, en fait... déjà, les rues, on les retrouvait plus. Il n'y a plus de rues, il n'y a rien du tout. Donc, pour simplement vous dire, j'étais bien perdue.
Oui, parce qu'en plus, vous y étiez l'été dernier. Et là, oui. C'est vrai que la différence entre les mois de juin, juillet ou que vous avez passé là-bas et quand vous êtes revenu là, au mois de février, il y a dû avoir une vraie différence aussi dans au-delà de simplement la géographie des rues et la cartographie de l'espace. Il y a eu aussi, évidemment, je suppose, les odeurs, le sentiment, l'ambiance aussi qui devait être complètement différente.
Oui, quand on arrive déjà à Mayotte, quand on descend, donc je dirais pas que c'est l'odeur de la mort, mais ça sent vraiment, en fait, il y a une vraie odeur qui est très, très fort. Quand on descend de l'avion, et là, on dit ça, c'est petit air. Et quand on arrive, une fois qu'on arrive au niveau de la barge, donc il n'y a qu'une barge qui circule déjà, là, déjà, on sent les odeurs déjà des perses, déjà... Je dirais
oui, c'est ça, peu. Ça sent la mort. Quoi.
Il y a ça sent la mort, du coup, et même au niveau de la mer, on voit les débris. Une fois arrivé dans l'autre rive, en fait, c'est-à-dire en grande terre, là, ça sent vraiment, vraiment l'odeur de... je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est vraiment nauséabonde.
C'est des odeurs en plus qui sont absolument indescriptibles.
Oui, on voit des poubelles partout, on voit... Ça sent et on voit, en fait, c'est vraiment...
Ce que vous illustrez là avec ce que vous dites des odeurs, ça illustre aussi une situation humanitaire sur place qui est absolument terrible. Et en fait, quand on dit ça, on a quasiment l'impression qu'on ne parle pas d'un territoire de France.
Oui. On dirait, sincèrement, là, une fois que je suis retournée là-bas, en fait, je ne me suis pas du tout sentie française, pour bien vous le dire.
Mayotte, aujourd'hui, n'est plus un territoire... vous considérez que l'État a un peu abandonné ce territoire?
Je ne dirais pas un peu abandonné. Je pense qu'il s'est
abandonné,
parce que même quand le président s'est déplacé là-bas, le fait qu'il nous dise la phrase qu'on s'estime heureux d'être français, là, c'est un peu limite. Et le fait de voir les actes, en fait, ils suivent les paroles. Donc là, les Mahorais se sentent délaissés. Donc là, c'est les Mahorais eux-mêmes qui œuvrent pour remettre, en fait, sur pied l'île.
Médecins sans frontières, qui est une des principales organisations non gouvernementales qui a intervenu sur place pour apporter de l'aide humanitaire, vient d'annoncer qu'ils allaient mettre un terme à leurs activités d'urgence d'aide aux victimes, alors que la situation, elle est vraiment encore critique. Si les ONG ne considèrent que ce n'est plus un état d'urgence, est-ce que vous considérez la même chose?
Non, je ne considère pas du tout. Pour moi, je pense que c'est un abandon total, en fait, que ce soit de l'État ou des ONG ou d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que nous, comme je le redis aussi, nous, Mahorais, on s'est dit c'est à nous de faire les choses. On ne doit pas attendre que ça vienne des autres parce que les autres nous ont laissés.
Et le principal problème sanitaire, c'est l'accès à l'eau.
Oui. Oui. J'étais là-bas, c'était tous les... Quand je suis arrivée, c'était tous les un jour et demi. Et après, ça a augmenté. C'était tous les deux jours et demi qu'il y avait l'eau qui coulait sur le robinet. Et là, ce qui m'a le plus choquée, là, ça, c'est le premier jour du Ramadan. Là, ça devait être... En fait, le tour d'eau, il devait arriver comme ça faisait un mois, en fait, tous les deux jours. Et là, ça a duré trois jours et demi. Et... c'était vers 18h que l'eau est arrivée, l'heure où les gens devaient aller se mettre à table pour manger. Et en sachant même les bouteilles d'eau pour y aller acheter, même si les gens ils ont en fait de quoi acheter, c'est, l'eau est rare et très chère.
L'eau est devenue un bien précieux.
Très précieux.
Jamel, ça dit aussi beaucoup de choses, des enjeux aussi géopolitiques, climatiques. Il y a des mouvements de population qui vont s'annoncer avec les dérèglements climatiques. C'est des enjeux qui sont très, très politiques aussi. Hein.
Exactement. Et c'est pour ça qu'en tant que militant antiraciste, on se pose la question. On devrait tous se poser la question, puisque Mayotte est normalement un département d'outre-mer. Ce qui pose la question, c'est le traitement de cette colonie, ce que j'appelle cette colonie département, où on a l'obsession de ce laboratoire de la lutte contre l'immigration, soi-disant lutte contre l'immigration.
On va revenir juste après.
Et sur une question humanitaire qui est grave, on a un délai qui est passé depuis Cyclone Chido. Et aujourd'hui, on a Adija qui a été présente sur place et qui voit qu'au bout d'un certain temps, finalement, le problème n'est pas résolu. Ça pose énormément de questions, justement, puisqu'il y a l'annonce d'une base militaire, il y a des tas d'annonces, et en fin de compte, on voit qu'on a encore des gens qui subissent un affre, une souffrance par le manque d'accès à l'eau, qui, je rappelle, dure, et c'est la Cour des comptes qui le dit, hein, sur une étude depuis 2010, on a 30% de la population mahoraise qui n'a pas un accès suffisant au niveau à l'eau potable.
Déjà, vous êtes d'accord avec ça quand Jamel parle de territoire d'un laboratoire?
Je dirais ça. Et avant, en fait, je me rendais pas compte, mais là, franchement, je dirais que c'est ça. Mmh. Je le confirmerai.
Il y a vraiment un besoin d'aide humanitaire. Hein. On est en train d'illustrer ça depuis tout à l'heure. La semaine dernière, il y avait un sujet de Mayotte la première qui faisait état de 22 tonnes d'aide humanitaire bloquées dans un port d'Ille-et-Vilaine. Ouais. Pour des pures questions administratives. Quand vous voyez ça, je suppose que ça doit vous mettre dans une colère folle.
Ça me met non seulement en colère, parce que moi-même, je suis touchée, en fait, parce que quand c'est arrivé Chido, donc du coup, tous mes frères et sœurs, on a mis un conteneur, en fait, en marche pour l'envoyer. Donc, il est parti d'ici depuis février, et jusqu'à ce jour, il n'est toujours pas arrivé. En fait,
il est toujours pas parti.
Il est parti plus tard.
Ah oui.
Plus tard que prévu. Il est parti plus tard que prévu et il y a des blocages ici. Le transitaire, il a dit normalement, ils avaient dit qu'ils allaient faciliter tous les paperasseries, si j'ose dire,
ouais.
Toutes les démarches administratives, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils ont plus renforcé, en fait, de demander autre chose que ce qu'ils demandent d'habitude.
Et selon toi, Jamel, selon vous, Jamel, à quoi c'est dû?
Alors,
est-ce que c'est des questions pareilles qui relèvent de l'antiracisme, qui relèvent de la question coloniale, ou c'est de la pure formalité administrative?
Alors, pour moi, à mon sens, oui, je lis en tout cas un traitement néocolonial qui est flagrant. Mmh. Déjà, sur une situation humanitaire qui est grave, qui est dramatique, je pose la question, pourquoi est-ce qu'une préfecture, puisqu'on a eu des éléments photos qui nous sont envoyés pour les personnes qui sont sur place ou qui étaient sur place, on a des éléments qui sont concrets, où on a une préfecture qui va, par exemple, demander, en tout cas, ils vont demander aux associations qui viennent récupérer les conteneurs de payer l'eau 3 de mer, les taxes portuaires. On est dans une situation quand même qui est un peu différente, où on devrait se passer justement des taxes. Donc, les associations qui ne peuvent pas payer, on a des conteneurs qui sont bloqués. Il y a quelque chose qui est très affreux quand même, et notamment dans la mise en scène qui est orchestrée par l'État. Et c'est là où on voit vraiment le traitement néocolonial. Quand on voit cette espèce de gens qui font la queue avec évidemment des agents d'État, on a la petite bouteille d'eau, la petite boîte de sardines, avec un discours du gouvernement, enfin du discours du président de la République, qui est flagrant pour annoncer finalement que oui, vous avez choisi d'être français, mais on va vous rappeler quand même, et comme l'a dit Retailleau d'ailleurs, hein, il a rappelé sur une émission de télévision, ce sont principalement des Noirs et des musulmans. Donc on a évidemment un traitement néocolonial qui est flagrant et qui est presque, en tout cas, qui dément l'idée d'une république une et indivisible, puisqu'on a des lois, des dispositifs qui sont particuliers à Mayotte, qui ne sont pas officiants ailleurs.
Par exemple, l'aide médicale d'État. Et ça nous amène à nous questionner sur la place aussi du débat autour de l'immigration qu'il y a sur l'île de Mayotte. Tout le monde est unanime. Hein. Ce sera très difficile de savoir vraiment combien de personnes sont mortes à cause du cyclone Chido et de l'autre cyclone qui a frappé le sud de l'île peu après. Le recensement des personnes dans les bidonvilles est vraiment, vraiment très compliqué. Est-ce que vous avez aussi été témoin de l'état des bidonvilles? Est-ce que vous avez pu vous y rendre, Adija?
Oui, je... Une fois arrivée à Mayotte, en fait, j'ai fait le tour de l'île. J'ai fait je suis arrivée déjà en Petite Terre. J'ai fait tout le tour de la Petite Terre. Je suis allée en Grande Terre du nord au sud. J'ai vraiment fait et refait, en fait, pour voir tous les dégâts. Parce qu'étant donné qu'il y a des personnes ici qui font partie d'Angers Solidarité Mayotte, qui me disaient si je pouvais passer voir, en fait, rendre visite leurs parents, voir comment ça se passe. Donc, du coup, j'ai vraiment pris le temps de rentrer ville par ville, de regarder tous les coins. Et là, j'ai vraiment vu l'état des bidonvilles. On voit, en fait, il y a encore les débris, comme je vous dis, des débris. Et c'est là qu'on sent vraiment l'odeur, en fait. Et on sent vraiment qu'il y a eu vraiment quelque chose. Et les gens, ils disent qu'il n'y a pas eu 39 morts. C'est
impossible. Mais pour l'instant, le bilan officiel, c'est 39 morts.
C'est ce qu'ils disent, c'est ce que l'État veut dire. Et ils veulent faire dire aux gens que c'est ça. Mais
alors qu'en fait, c'est indénombrable.
C'est indénombrable parce qu'ils ne veulent pas le dénombrer. Et ils ont dit que c'est parce qu'on est un pays musulman qu'on ne peut pas. Mais ils n'ont qu'à aller
un pays musulman, déjà, c'est fou,
oui,
de parler d'un pays musulman pour parler d'un territoire de France.
Pour moi, ils n'ont qu'à aller compter les tombeaux, ils sauront combien de morts il y a eu.
Oui, parce que dans la culture, il faut le rappeler, hein, c'est important d'enterrer très vite.
Oui.
Donc en fait, la question du recensement, surtout dans cette période d'instabilité, ça, voilà, le process n'a pas pu être respecté selon la paperasserie, comme vous disiez, de l'administration française. Jamel?
Oui, bah déjà, on parle de 39 morts, mais l'État fait quand même état de près de 58 à presque 60 personnes disparues. Donc si on rajoute à ça, ça fait au moins 90 personnes. Et puis, effectivement, il y a ceux qu'on ne peut pas compter, puisque par essence, étant par exemple sans papier, ceux qui sont dans les bidonvilles, évidemment qu'ils ne seront pas comptabilisés. Donc dans cet esprit-là, oui, ce qui est étonnant, c'est à chaque fois de se dire que ça fait quelques mois quand même qu'il y a eu Chido et qu'il y a toujours une urgence humanitaire. Et c'est ça qui est très questionnant.
Les bidonvilles, il y en a beaucoup, hein, dans l'est de l'île, notamment autour de Mamoudzou, qui est la ville principale de Mayotte. En tout, il y en a plus d'une vingtaine qui sont dénombrées selon des cartes que j'ai pu trouver sur Internet avec des vues satellites. C'est énorme. Qui sont dans ces bidonvilles ?
C'est des personnes qui sont en situation irrégulière qui habitent là. Et en sachant, en fait, pour moi, ils ne sont pas que dans ces bidonvilles-là qui sont bien
définis et marqués,
mais ils sont, là, je vous dis un exemple, en fait, concret. Vers le sud, en fait, dans les forêts, on retrouve toutes ces personnes-là. Ils sont un peu partout et...
La question de l'immigration, c'est un sujet qui est d'autant plus difficile pour vous, militant antiraciste Jamel. C'est-à-dire qu'on se rend compte que là, dans le témoignage d'Adija, il y a un vrai problème avec l'immigration qui crée tout ce qu'on a bien pu lire et entendre dans les médias. Et en même temps, accueillir les personnes dans le besoin, c'est aussi un de vos combats éternels.
Bien sûr, bien sûr. Effectivement, il y a une dissension entre l'idée de pouvoir, en tout cas, être humain, tout simplement, parce que chaque personne a le droit de circuler le souhaite. En plus, c'est lié à une histoire particulière, hein, des Comores, et puis l'histoire française.
Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, mais en fait, Mayotte, c'est vraiment juste à côté des Comores. Il y a beaucoup de migrations depuis les îles des Comores, l'archipel des Comores, jusqu'à Mayotte.
L'immigration, elle ne vient pas que des Comores. L'immigration, en fait, il y a des personnes qui viennent de l'Afrique. Là, en fait, quand je suis allée, j'ai trouvé en fait des personnes asiatiques. Il y a tout le monde, en fait, à Mayotte. C'est cosmopolite.
Et dans les bidonvilles aussi ?
Oui.
C'est quoi votre grille de lecture de ça, Jamel?
Alors, la grille de lecture, elle est très complexe, en fait, sur Mayotte. C'est ce qui différencie Mayotte, peut-être, d'autres endroits. Et donc, moi, je ne suis pas légitime pour parler, effectivement, de ce sujet-là sur place, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des tensions qui existent, qui sont palpables. Par contre, ce qui est étonnant, c'est d'avoir déployé autant de moyens répressifs sur la question de l'immigration à Mayotte pour finalement, lorsqu'il y a un cyclone qui arrive et qui tue des centaines de personnes, de toute façon beaucoup plus, hein, qui laisse un désarroi sur une population qui, elle, avait, on va dire, une attention particulière envers la République française. Ce qui est étonnant, c'est de voir que finalement, on a une considération un petit peu de toute une population comme si on les jetait en pâture sans faire de distinction lorsqu'il y a une question humanitaire. C'est ça qui nous inquiète réellement en tant que militant antiraciste, c'est que finalement, on renvoie à une population l'idée que ben finalement, vous n'êtes pas si français que ça. Et c'est ça qui est très inquiétant, puisque je rappelle que par rapport à la situation, nous, on l'a en lien avec la dynamique de Saint-Nazaire, de Nantes, et on les salue d'ailleurs. Il y a des conteneurs qui ont été envoyés, effectivement, nous, la question des filtres à eau. Donc, on est sur cette question essentielle. Là où, finalement, sur place, peut-être que les services de sécurité civile ou enfin l'État français n'y est pas. Et nous, l'attention, qui doit d'abord être sur l'humanité, doit se concentrer d'abord sur l'ensemble de la population à Mayotte, qui est diverse, qui est cosmopolite, comme tu le disais, et qui doit avoir une autre grille de lecture que celle de la répression, parce qu'on est capable quand même d'envoyer des moyens financiers, enfin des moyens très coûteux sur
l'aspect
répressif.
L'opération Wambushu, dite opération Wambushu pour détruire ce bidonville de Wambushu, c'était des moyens hyper importants, autant en communication qu'en moyens matériels et humains.
Oui, et donc on est capable de déployer des gouvernements, enfin des moyens très importants. Alors que sur une question humanitaire, on a juste un président qui vient vous dire « soyez content d'être français ». Moi, ce que je vois, c'est que dans cette situation-là, on a des rapports, nous, qui font état quand même, que des enfants ont été laissés pour compte. C'est-à-dire qu'on a, et ce qui est contraire aux lois internationales, hein, on a fait en sorte que des enfants soient sortis des liens parentaux pour alimenter finalement une question répressive.
Déjà, peut-être pour conclure, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une immigration non contrôlée trop importante sur le territoire mahorais?
Ce n'est pas un sentiment, c'est la réalité. Parce que toutes les heures, toutes les deux heures, en fait, il y a des gens qui arrivent, que ce soit au sud, au nord ou à l'est. Donc, il y a du monde qui arrive. Donc, comme il avait dit, il y a un politicien, je ne veux pas le nommer, qui a dit que ces personnes-là, ils ne viennent pas pour la nourriture, mais ils viennent pour quelque chose. Donc, c'est pour avoir une situation. Simplement ça. Qu'est-ce que l'État met en place pour ça?
Et ça rejoint quand même un sentiment très fort et très qu'on peut voir aussi sur les cartes électorales, à savoir une vraie montée des mouvements d'extrême droite comme le Rassemblement national, qui se positionne très clairement en faveur de la lutte contre l'immigration sur ces territoires.
Oui, l'extrême droite, ça fait très longtemps, depuis l'époque de l'OAS. C'est-à-dire que l'époque de l'OAS, elle a toujours considéré Mayotte comme étant un territoire d'exception, un véritable laboratoire pour eux. C'est là où ils se démontrent, parce qu'on a quand même des groupes politiques qui sont principalement islamophobes et racistes, qui se servent de Mayotte, effectivement, pour alimenter un sentiment anti-immigrationnel. Alors que la question pourrait se résoudre autrement, alors évidemment par un vrai plan de réponse et d'analyse sur ce qui se passe et sur l'histoire de Mayotte, ce qui est très complexe, plutôt que d'essayer de diviser encore plus la population et de ne pas répondre à un moment essentiel. C'est pour ça que je le rappelle encore, Chido est passé, on a encore situation d'urgence, ce qui fait que nous, on a rejoint très rapidement la dynamique d'Angers Solidarité Mayotte, avec des collectifs de quartiers, des associations, pour faire en sorte d'y répondre. Donc c'est la population civile qui y répond peut-être plus que l'État.
Et on remercie une nouvelle fois nos camarades de Radio Campus Angers pour ce sujet. La matinale de 19h n'est pas encore terminée pour aujourd'hui. Dans un instant, le flash d'Éléonore, puis le premier zoom de la soirée avec Garance. Mais d'abord ça.
Se traîne, la nuit n'en finit plus, et j'attends que quelque chose vienne, mais je ne sais qui, je ne sais quoi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre, malgré le vide de tout ce temps passé. Et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui
comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser.
La nuit n'en finit plus de Petula Clark. On m'a dit que c'était qu'on pouvait entendre ce morceau dans Le jeu de la dame, mais j'en ai rien à foutre du jeu de la dame. Il me semble que c'est dans Vampire Humaniste Cherche Suicidaire qu'on s'entend d'Ariane Wissa. Je suis pas sûr, mais voilà, à vérifier. Ce ne sera pas dans Flash Info cette vérification, mais il y a plein d'autres infos avec Éléonore. Bonsoir.
Le Flash Info de la matinale de 19h. Bonsoir à toutes et à tous. Un condensé des actus que vous avez manqué. Politique et nucléaire, Netanyahou s'est rendu à la Maison-Blanche pour négocier les droits de douane imposés à Israël, mais n'a pas obtenu gain de cause. Trump a de son côté annoncé une surprise à sa manière. Un accord sur le nucléaire iranien a débuté et se poursuivra ce week-end à Téhéran. Pour contexte, le Times rappelle que le président américain a lui-même soustrait les États-Unis de l'accord sur le nucléaire, acté en 2015 par Obama. Et puis, depuis l'annonce concernant les frais de douane en pleine expansion, Trump fait trembler les puissances économiques. L'UE et la Chine devraient faire front commun pour conserver la stabilité et la prévisibilité, informe la présidente de la Commission européenne. C'est 50 pays qui espèrent éviter une guerre commerciale sans précédent. Emmanuel Macron a souligné tout à l'heure qu'il a pour objectif d'obtenir une rétractation américaine. Si ça doit passer par un moment où on doit expliquer qu'on est prêt à répondre, il faudra assumer de le faire. De retour à Paris, le feu qui s'est propagé hier soir dans le 17e arrondissement a ravagé des locaux du service public des déchets ménagers, seul un blessé léger. L'incendie n'a cependant pas gagné du terrain. Les bouteilles de gaz touchées qui ont explosé ont créé un nuage impressionnant pour les passants. Ce matin, encore 80 pompiers étaient mobilisés. Le dispositif de surveillance et le périmètre de sécurité sont maintenus, même si le ministre de l'Intérieur affirme qu'il n'y a pas de problème de toxicité de l'air. RN haute tension. À l'occasion de la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics lundi dernier, dans l'affaire des assistants parlementaires, un homme de 76 ans a été interpellé en Haute-Seine aujourd'hui. Il a publié une insulte et une photo de guillotine sur le réseau X, à l'encontre de la présidente de la chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Victime de menaces des partisans du RN, au point que le Conseil supérieur de la magistrature s'inquiète pour la sécurité de ses pairs. Enfin, culture, la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les secteurs de l'audiovisuel, de la mode, de la publicité, du spectacle, qui avait été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale, doit présenter son rapport dès demain au Palais Bourbon. La grande famille du cinéma et du théâtre sont perçues comme lieu privilégié de la commission des violences. C'est au total 313 pages qui dénoncent une loi du silence, intériorisée et instrumentalisée dans les métiers des 10 secteurs. Judith Godrèche affirme que ce modèle français de création artistique doit être assaini et sécurisé. à découvrir ou redécouvrir cette semaine. La série La Servante Écarlate, adaptée du roman dystopique de Margaret Atwood, dévoile aujourd'hui 3 épisodes de sa 6e et dernière saison. Sortie en 2017, elle aborde l'immigration politique, le contrôle du corps des femmes, dans une société en baisse démographique qui reste toujours d'actualité. Et enfin, la série d'anthologie britannique Black Mirror revient pour une nouvelle saison. Ce jeudi, 6 épisodes sont prévus. L'IA sera mise en avant dans les questionnements dystopiques qui ont fait la signature de la série.
Merci beaucoup, Éléonore, pour ce flash info. 19h30, vous écoutez la matinale de 19h et on passe au Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Au Zoom, mais en vérité, il y aura 2 Zooms ce soir qui seront présentés par Garance. Bonsoir Garance.
Bonsoir. Alors dans le Zoom d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Levaret, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Jean-Pierre,
oui.
Est-ce que vous m'entendez?
Bonsoir, oui, je vous entends.
Bienvenue
bien,
à Radio Campus Paris. Donc Jean-Pierre oui. Levaret, vous avez travaillé pendant 42 ans comme ouvrier de fabrication dans une usine de produits chimiques de la Grande Paroisse au Grand Quévilly, près de Rouen, qui est une ancienne filiale de Total. Et vous avez quitté l'usine en 2015 pour prendre votre retraite.
Oui.
Et vous vous présentez comme militant engagé dans le social et libertaire. Donc là, je fais une rapide biographie, si ça vous va. En 1975, à votre entrée à l'usine, vous adhérez à l'Organisation communiste des travailleurs. Et de 1977 à 1981, vous participez notamment à la création et à l'animation d'un journal de contre-information sur Rouen, proche du mouvement autonome. Et vous contribuez pendant plusieurs années au fanzine et label musical On a faim. Et donc vous êtes militant à la Fédération anarchiste depuis 1983 et militant syndical à la CGT. C'est en tout cas ce que dit Wikipédia à votre propos. Est-ce que tout est correct ?
Wikipédia et le Métron, j'ai vu. Okay. C'est exactement ça, oui.
Et donc vous êtes par ailleurs l'auteur d'un livre intitulé « Putain d'usine » réédité aux éditions Agon en janvier 2025 après une première parution en 2007. Et vous écrivez dans la préface de votre livre que vous êtes ce qu'on appelle un grand lecteur et que vous aviez l'envie de raconter votre vie à l'usine depuis un moment. Parce que ça vous manquait de ne pas vous retrouver dans les livres que vous lisiez, donc que vous ne retrouviez pas dans, par exemple, les histoires de cadres d'universitaires. Donc peu de vies ouvrières sont racontées, et surtout pas de livres écrits par les ouvriers eux-mêmes. Mais pourtant, vous ne vous êtes jamais dit écrivain, mais ouvrier qui écrit. Pourquoi vous tenez à ce titre ?
Bah parce que je ne vis pas de ma plume, déjà. Mmh. Et puis,
comme beaucoup d'écrivains.
Oui, je sais bien, mais je ne me sens pas légitime. Même si j'ai écrit une quinzaine de livres et fait 2 pièces de théâtre, je me sens ouvrier quand même, parce que c'est le plus gros de ma vie quand même. C'est ce qui m'a marqué dans mon corps, qui fait que voilà, je suis ouvrier et j'écris. Il se trouve que j'écris. Voilà, j'aurais pu être chanteur, mais j'ai... C'était pas trop ma voix, quoi, c'est le cas de dire. C'est sorti avant 2007. 2007, c'est quand Putain d'usine a été repris par Agon.
D'accord.
Et moi, il est sorti en 2002.
D'accord.
La première, voilà.
Et vous avez commencé là, à écrire en 2000 ou avant ?
Oh non, moi j'ai écrit tout le temps. En fait, dès que j'ai quitté l'école, j'ai écrit. Mais bon, c'était des articles, puisque j'aimais bien faire paraître des journaux. Donc j'en ai fait quelques-uns, et puis dont On a faim, dont vous avez parlé, qui a été un fanzine, qui a été important dans ma vie, qui était aussi un label de musique. Voilà.
Et, donc, et votre livre Putain d'usine raconte donc le quotidien du travail à l'usine sous forme de chronique. Donc vous racontez les grèves, les mobilisations contre la hiérarchie, les patrons et contre tout ce système qui broie les ouvriers. Vous racontez notamment la mort qui règne partout, les collègues qui n'atteignent pas la retraite, les cancers, le dos, le cœur qui devient fragile, la dégradation des conditions de travail. Et donc, pour autant, la réception de votre livre par vos collègues, notamment syndicaux, lorsqu'il est publié pour la première fois, est dans un premier temps mitigée. Et ils vous reprochent surtout de donner une mauvaise image des ouvriers.
Et... Bah, ça dépend, mais oui, ça justement... c'est toujours... Hein, tous les ouvriers qui écrivent, souvent, se font critiquer. Hein, mais je crois que c'est dans tous les milieux quand même. Hein, j'étais plutôt soutenu par mon syndicat. Hein. C'est plutôt les autres syndicats qui n'aimaient pas trop ce que je disais, quoi.
Oui, parce que j'allais dire, voilà, ensuite, c'est qu'ensuite, vos collègues se mettent à l'acheter par paquet de 10,
voilà, oui,
pour l'offrir, oui, autour d'eux, parce qu'enfin, on écrivait vraiment ce qu'ils vivent.
Oui.
Et je voulais vous demander, est-ce que l'écriture à la première personne, c'est une autre façon de lutter contre le rapport de classe, contre la domination des patrons qu'entraîne le salariat?
Bah c'est, ou, en fait, c'est le... C'est comment dire, j'avais envie de faire un livre politique à la première personne, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mmh. Et donc, ce que je connaissais le mieux, quand même, c'était mon travail, enfin, le travail en usine. Et puis, de le faire à la première personne, voilà, oui, c'est important. Mais je crois que, après, quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature prolétarienne et tout ça, je me suis aperçu que souvent, les ouvriers, ils parlaient d'eux à la première personne. Mmh. Alors donc, moi, j'ai suivi, sans le faire exprès, j'ai suivi le mouvement. Et puis, c'est plus facile pour parler, de parler de soi, parce que de parler par rapport à son expérience. Je ne suis pas trop balèze en fiction, même si on m'en a demandé et que j'en ai écrit. Mais ce n'est pas trop ma façon d'écrire, quoi. Je suis plutôt dans le comment ça s'appelle, pas la fiction, mais en fait
l'autofiction. Là c'est vraiment une forme de journal.
Après, même si j'ai pas parlé de la même chose, au bout de quelques temps, en analysant ce que je faisais, je me suis dit merci Annie Ernaux. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle écrit, mais c'est peut-être à cause d'elle aussi que j'ai écrit à la première personne. Vous voyez,
ouais.
Oui.
Et donc vous l'avez dit, Putain d'usine a été adapté donc en bande dessinée.
Adapté en bande dessinée.
FX, au cinéma, coécrit, réalisé
en
avec
documentaire.
Alain Pitaine, ouais, dans lequel vous vous figurez.
En
vos
documentaire
collègues.
Qui a été. Oui.
Et adapté au théâtre. Dire,
Et puis il y a une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Des nuits en bleu, qui est un peu qui reprend un peu les propos de mes livres, mais de façon plus... une pièce de théâtre, quoi, qui a bien marché, qui a été reprise par deux troupes, dont la première était assez importante, avec un CDN et tout ça. Enfin bon, c'était un gros truc, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais non, ça, c'était un autre monde. Ce qui était comment dire, quand je m'occupais du fanzine On a faim, j'étais dans le milieu musical. Et puis après, avec l'écriture, d'une part, c'était moi personnellement et non plus tout un groupe. Mais j'ai découvert toute la bande dessinée, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert le milieu des documentaires et tout ça. Enfin, ça m'a changé la vie quand même.
Et moi, je me demandais... Parce que votre mot d'ordre, c'est donc notamment le titre de texte qui font partie Putain d'usine, c'est « Je ne jamais travailler, dire non ». Et pourtant, malgré toutes ces occasions, ces propositions de faire autre chose, vous continuez à travailler à l'usine.
Eh oui. Il y a eu une période où j'ai pensé qu'il fallait que j'arrête, parce que tout ça, là, tous mes livres, les livres, le théâtre, tout ça, ça m'a pris... C'était un autre monde et j'ai failli quitter l'usine. Et puis je suis resté parce que c'est ma vie, quoi, quelque part.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Levaret, d'avoir été notre invité dans la matinale. C'est malheureusement déjà la fin de cette interview. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver votre livre « Putain d'usine » dans toutes les librairies aux éditions Agone.
Voilà. Allez.
Et merci à Garance à l'animation de ce premier Zoom. 19h39, on va écouter une nouvelle pause musicale avant de passer au deuxième. I used to open my door to pretty much anyone who was trying to look for a place to feel safe, but I made my whole world safer for everyone but me. So smiling on the inside. et c'était Open My Door de Alice Phoebe Lou. Bon, moi c'est Simon Clément François. Voilà.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Pardon, je pensais que c'était le moment où on pouvait dire tous les prénoms des gens. 19h42, il reste encore une petite vingtaine de minutes de matinale de 19h et on retrouve une nouvelle fois Garance, et on va parler cette fois musique.
Ah oui, alors dans ce deuxième Zoom de la matinale, on accueille Julien Lévy, donc programmateur du festival Palmipèdes, et Emmanuel Boussier, chargé de communication donc dans ce même festival qui aura lieu le vendredi 11 et samedi 12 avril au Pôle B à Massy dans l'Essonne. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que Julien, vous m'entendez?
Ouais, salut.
Tu m'entends?
Oui.
Ouais, et Emmanuel est avec nous en présentiel.
Salut.
Enchanté.
Donc avant de parler plus précisément du festival, est-ce que vous pourriez me parler un peu du club de Smurf, qui est à l'origine, je crois, du festival Palmipèdes et qui se charge donc de la conception, de la programmation et de la coordination?
Tout à fait. Bah, Club de Smurf, c'est une association qui est basée à Massy, en Essonne. Et qui agit dans le domaine des musiques actuelles en Île-de-France. On fait notamment des actions autour de l'accompagnement artistique, accompagnement des musiciens, musiciennes, programmation et production de concerts, dont le festival Palmipèdes, et création musicale. Et je dis au niveau Île-de-France parce qu'on est aussi membre du RIF, réseau francilien des musiques actuelles.
D'accord. Et cette année, donc le festival Palmipèdes, qui est donc c'est la 7e édition, change de lieu. Et donc, ce sera au Pôle B. C'est quoi comme lieu, le Pôle B, qui est votre partenaire pour cette édition?
Bah, Pôle B, c'est une salle de concert qui est basée à Massy, justement.
Ouais.
Enfin, qui est à Massy. C'est une salle qui fait une programmation toute l'année de concerts.
De musique actuelle.
Ouais, en musique actuelle, exactement, dans plein de styles de musique en vrai différents, qui accueillent beaucoup d'artistes. C'est un volume, je pense, d'une cinquantaine de dates à l'année, quoi, probablement, quelque chose dans cet ordre-là. Et puis qui développe aussi des actions d'accompagnement, d'aide à la structuration du secteur.
Et donc cette année, pour le festival, vous attendez environ 500 personnes par jour, c'est ça? Dans deux salles différentes donc du pôle B.
Alors, c'est ça. En fait, le festival se déroule sur deux scènes. Donc, à pôle B, il y a deux scènes. Il y a des studios de répétition aussi. Bref, par ailleurs, c'est un équipement assez conséquent. Et sur la jauge, jauge publique, précédemment, on était à 250 personnes par soir. Mais là, potentiellement, on peut aller au moins à 300 et peut-être plus, donc on verra.
Et si vous deviez décrire la DA du festival, parce que j'ai lu « soirée zinzine », ça veut dire quoi?
Ouais, c'est, on a, la DA, je peux la résumer en « musiques actuelles à tendance zinzin ».
Ok. Et du coup, comment on fait une programmation à partir de ça? C'est quoi le point commun entre les différents artistes qui ont été programmés?
Alors, on est attentif à deux axes principaux sur la programmation qui sont, au-delà de l'identité artistique, hein, qui sont le soutien à la scène émergente ou à la scène locale, on va dire, de l'Essonne et plus largement à des groupes repérés en Île-de-France.
D'accord.
Et l'autre axe, c'est d'aller sur de la découverte d'artistes qui viennent d'horizons plus lointains. Et justement, du coup, ce qui fait le lien entre les deux, c'est qu'on va être attentif à des propositions un peu fofolles, ou en tout cas qui vont dire, que, on va dire qui sortent peut-être un peu des sentiers battus, qui mélangent des choses, voilà.
Et Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du programme, comment ça se déroule? Je sais que c'est sur deux jours. Et est-ce qu'il y a des événements particuliers ou c'est vraiment que des concerts?
C'est une succession de concerts entre les deux salles, donc le club et la plus grosse scène. Donc ça s'enchaîne, il y a 5 groupes par soir. Ouverture des portes à 19h. si je dis pas de bêtises.
Okay.
Jusqu'à voilà, tard la nuit. Et ouais, c'est vraiment un enchaînement de concerts qui, ouais, tout le temps.
Parce que par exemple, je me demandais, le groupe Parquet, que je connais pas, ouvre un bal acidulé. C'est vraiment un bal ou c'est juste la manière de le présenter ?
Julien, je te laisse, présenter le projet.
Ouais, je t'en prie. Ouais, merci. Bah oui, ça va danser, ouais.
Okay.
C'est sûr. Après, c'est pas le format d'un bal populaire, on va dire. Mais ouais, si, c'est populaire quand même. Ça va bien danser.
Ouais, c'est programmé à la fin. C'est vraiment en clôture et c'est vraiment là où ça danse, okay. Tout le monde est à fond et ça va être très cool.
Et du coup, pour la répartition de la programmation, vous avez fait... Parce qu'il y a vraiment du rap, post-punk, du reggae, dancehall, de la techno, la pop, le même soir. Et c'était fait exprès, du coup, d'avoir comme ça une programmation hétéroclite.
Ouais, c'est Julien qui fait la programmation. Et c'est toujours hyper varié. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est ça que j'adore sur le Palmipède, c'est que c'est très émergent, mais y a, on s'y retrouve tous. Et c'est beaucoup de découvertes. Mmh. Donc, même si on a un style de prédilection, ouais, voilà, moi, j'ai hâte de voir Vanzo qui fait du reggae. À chaque année, c'est très diversifié. C'est super cool.
Et du coup, pour vos autres partenaires, vous avez le collectif Alambic qui s'occupe de la mise en lumière.
Oui.
Vous travaillez avec eux depuis longtemps ?
Ouais, en fait, depuis les débuts du festival, on travaille avec... plus précisément la compagnie Trafic en d'art et le collectif Alambic qui travaille en tome en fait et qui effectivement se répartissent entre la mise en lumière des espaces publics et la scénographie aussi des espaces scéniques. Alors là, à Pôle B, ça va un petit peu changer, les équipes techniques étant présentes sur site. Enfin, comment dire, c'est géré par, c'est les équipes techniques de Pôle B en fait qui vont avec un petit renfort qui vont travailler pour la mise en lumière des espaces scéniques. Mais par contre, sur l'ambiance du festival et le côté un peu psychédélique ou en tout cas assez particulier qu'il y a, c'est vraiment le collectif Alambic et Trafiquant d'art qui travaillent ensemble là-dessus.
Et comment est-ce que vous avez pensé l'expérience des festivaliers, festivalières ? Parce que j'ai vu qu'il y avait une restauration végane. Donc, est-ce que vous avez des partenaires aussi en cuisine ? Comment ça se passe ?
Ouais. Alors, c'est Club de Smurf, en fait, qui assure la restauration du public depuis les débuts du festival. On prévoit effectivement un repas végétarien. C'est en général apprécié. Bah après sur le festival, il y a une ambiance, ouais, vraiment on essaie de créer un moment dont on puisse se souvenir et qu'on aura kiffé ensemble en fait.
Et justement, voilà. J'allais vous demander qu'est-ce qui fait un bon festival pour vous, c'est les maîtres mots de la fête,
le partage surtout avec le public, la découverte des artistes. Et la rencontre des gens et de tous se regrouper et se retrouver sur ce festival, c'est assez familial. On retrouve toujours les mêmes personnes globalement, même si là, on touche un public plus large pour cette année. Mais ouais, et une bonne programmation surtout avec des artistes chauds sur scène. Et voilà.
Et là, vous avez aussi une mini bourse au vinyle qui est programmée de 14h à 18h.
malheureusement, elle n'aura pas lieu cette année.
D'accord.
Mais effectivement, en fait, comme on a changé de lieu, ça change un peu le contexte et on pensait la faire au début et puis finalement, en fait, ça a moins de sens de la faire là. Donc, c'est dommage en même temps parce que c'est le Discardet samedi, mais bon, c'est comme ça. Voilà.
En tout cas, il y aura toujours la radio.
On a dû faire un choix. La BLP Radio, ils vont faire des interviews d'artistes dans la journée, ouais.
Ok, bah super. Donc, voilà. Je rappelle que le festival Palmipèdes aura lieu le vendredi 11 et le samedi 12 avril au Pôle B à Massy.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et justement, en parlant du festival Palmipèdes, on va écouter un morceau de Lynx IRL. Comme ça, on peut se mettre dans le bain. Et si jamais il y a des gens que ça pourra motiver, allez-y, 19h52.
Je compte pas attendre 300. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes partent dans Zef. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. Le félin simis, London style. Je fais la bise comme un grand box style. Je navigue entre ce que je combine et ce que je combats. Rien que des virages dans ce bail. Le félin simis, London style. Trop mal ni en boîte ni en costard. Trop mal ni en boîte ni au bout de ma vie. Je passe plaisir aux bâtards d'en face. C'est pour mes go en baggy, les refs en bas ici qui font bugger les vieilles. La line peut saler le futur aussi. Tout brûler, c'est le main event. Frère, sans moi juste un bon break. Il est pas temps qu'on se taise. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes partent dans Zef. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. J'essaie de rester positif, c'est dur. Mais y'a pas de fumée sans fun. Ils voient le futur dans les films, j'ai vu. L'avenir dans un Phuket sans feu. Je me demande encore pourquoi. Jouer les crevards si on meurt tous à la fin. Ils se demandent encore pourquoi. Les Arabes sont pas comme dans Aladdin. J'ai l'habitude. Reste focus, avance tête baissée, stutchi dessus. Des fils main dans la main pour les pires trucs. Des sœurs qui se mangent la tête, des refs qui se tuent. Au fond, je suis pisseur. Un son d'elfe qui peut brûler la piste. T'as pisté. C'est pour mes couilles, mais que pour tous ceux que ce monde a skippé. Je compte pas attendre 300 berges, je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices, les pessimistes partent dans Zef. Je compte pas attendre 300 berges, je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices.
C'était ZBL de Lynx IRL sur Radio Campus Paris. Donc Lynx IRL, on pourra, je disais tout à l'heure, retrouver ce vendredi 11 avril au festival Palmipèdes à Massy, 19h54.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et plus qu'une poignée de minutes avant de laisser place à nos amis de la demi-heure. Mais d'abord, on retrouve Fabien pour sa chronique. Bonsoir Fabien.
Bonsoir. Eh ben, moi, je vais vous parler des actualités culturelles qu'il y a pour ce week-end. Donc on commence tout de suite avec donc pour les vacances de printemps. C'est à partir du 11 avril 2025. Vous plongerez dans l'œuvre iconique de Saint-Exupéry et vous partirez pour un voyage magique et immersif aux côtés du Petit Prince à l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières vous propose de plonger dans l'œuvre de Saint-Exupéry. Les célèbres dessins et aquarelles de l'écrivain prennent vie sur les murs et le sol. La silhouette du petit prince reconnaissable entre tous se balade autour de nous. Et on peut admirer le renard, la rose, le désert de la terre et les planètes que le petit prince a visitées. On pourrait même apercevoir un mouton dessiné quelque part. C'est un voyage poétique, onirique et mouvant que le centre d'art nous propose. Immergés dans cette histoire, les visiteurs deviennent des témoins silencieux de cette épopée durant laquelle le petit prince découvre le monde, ses difficultés, mais aussi ses beautés. En ce premier semestre de 2025, l'Atelier des Lumières propose également une programmation artistique autour de Picasso et du douanier Rousseau. Donc c'est à partir du 11 avril 2025, c'est à l'Atelier des Lumières, 38 rue Saint-Maur, Paris 11e. Et pour avoir plus d'informations, le site officiel c'est atelierlumière.com.
Atelier-lumière.
Et puis, tout le mois d'avril 2025, redécouvrez les monuments parisiens emblématiques à travers 9 expériences virtuelles. Avec NRJ Experience par Dassault Systèmes, vous pouvez gagner de nombreux lots en scannant le plus de monuments identifiés sur la carte. Plongez dans une aventure inédite en plein cœur de Paris, NRJ Experience vous invite à partir à la recherche de 9 expériences virtuelles cachées aux abords de monuments parisiens emblématiques, mettant en scène des innovations durables. Grâce à la réalité augmentée, les participants sont invités à libérer le potentiel sous-sol caché de leur environnement et à découvrir comment mieux produire et consommer l'énergie de demain. Et pour rendre l'aventure encore plus excitante, il y a un tirage au sort qui sera organisé à l'issue de l'événement et qui offrira aux participants la possibilité de remporter de nombreux lots, dont des vélos électriques. Alors lancez-vous dans cette chasse au trésor unique, scannez les monuments, découvrez les innovations et gagnez des lots. Et pour plus d'informations, c'est energieexperience3ds.com. Sherlock in the City, c'est un jeu de piste à énigmes pour explorer Paris toujours. Que vous soyez amateur de chasse au trésor, passionné d'histoire ou tout simplement curieux de découvrir la ville autrement, Sherlock in the City fera appel à votre sens de l'observation et votre logique pour vous plonger dans la culture et les secrets de la capitale française. Des énigmes bien dosées pour un défi stimulant. Le jeu propose des parcours adaptés à tous les publics, des parcours adultes, ados, familles pour les plus grands et des parcours enfants pour les plus jeunes. Ni trop fragiles ni trop complexes, les énigmes vous invite à observer et réfléchir tout en vous amusant. Vous aurez l'impression de participer à un escape game en plein air tout en explorant les plus beaux monuments de Paris. Plusieurs parcours vous attendent, Montmartre, le quartier latin, le Marais et le jardin du Luxembourg. Tout au long du parcours, Sherlock in the City vous raconte des anecdotes insolites sur son histoire, son architecture ou ses personnages célèbres. Se jouant directement sur votre smartphone, Sherlock in the City vous offre une autonomie totale. Alliez découverte, réflexion et plaisir avec ses jeux de piste originales à mi-chemin entre escape game et visite culturelle. C'est 40 euros par équipe par contre. Et c'est, pour avoir plus d'infos, c'est sherlockinthecity.com.
Merci Fabien pour cet agenda. 19h57, bientôt 58, et c'est déjà la fin de cette matinale de 19h. Merci beaucoup évidemment à toute l'équipe qui m'aura accompagné ce soir, à savoir Garance à l'animation des deux Zooms, Éléonore à l'animation du Flash Info, Fabien à la chronique, Joey à la réalisation, et bien sûr l'indéboulonnable Maïwen à la coordination de cette émission. On se retrouve en podcast sur radiocampusparis.org et les applications de streaming, et bien sûr à 20h on retrouve Pitoum, mon petit Pitoum, comment ça va?
Salut Simon,
c'est
ça va
face au
très
mur
bien.
Ce soir?
Ben alors, ce soir on va parler de la droite,
bien sûr.
Parce
la
que
droite,
voilà,
ouais.
Mais aussi Trump, on va parler de Marine Le Pen évidemment, mais surtout la droite, beaucoup la droite, les droitards, qu'est-ce qu'ils nous font chier quand même.
On est d'accord. Il a pas entendu, mais je l'ai trollé, j'ai dit c'est face au mur parce que c'est une émission qu'il a fait il y a deux années.
J'ai pas entendu,
voilà.
Non.
Et, ouais. Et en fait, c'est France Ludique, le quiz entre deux chaises évidemment à 20h. Et non, non plus, c'est la demi-heure, bien sûr. A tout de suite, Pitoum, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Moi je vous dis à demain à 20h pour le Monde Zygomatique et la rédaction de la matinale dès 19h. Bonne soirée.